France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, un patrimoine radiophonique.
Qu'ils parlent l'arabe, l'anglais américain, le français, le cinéma ou toute autre des langues dans lesquelles ce citoyen égyptien du monde passait les frontières, Youssef Chahine ne parlait jamais de bois, jamais non plus comme une télévision. Les entretiens d'avoine nue qu'il accordait en 2004 à Toufik Hakem en sont une bonne illustration. Notamment le cinquième et dernier de la série que nous allons entendre, dans lequel Chahine racontait ce qu'avait été son passage au jury du Festival de Cannes en 1983 et le ton sur lequel il s'était alors adressé à son président William Styron. Qu'il parle de l'Égypte, de l'Amérique, d'Israël et des Palestiniens, de la guerre du Golfe, de la France, de l'intégrisme ou du cinéma, Youssef Chahine disait là sans détour ce qu'il pensait. Alors qu'il terminait Alexandrie New York, il parlait de ses projets et affirmait tranquillement n'avoir peur de rien. À quoi tenait le charme de cette voix qu'on ne se lasse pas d'entendre? À mille choses, sans doute, qui appartiennent aujourd'hui à un monde disparu et très certainement à la liberté grave et joyeuse dont elle vibrait. Chahine, le Métèque, cinquième et dernière partie de La Voix Nue de Youssef Chahine, diffusée la première fois le 23 juillet 2004 sur France Culture.
À Voix Nue avec Youssef Chahine, dernier volet donc aujourd'hui, Chahine le Métèque. Et on est chez vous, au Caire, dans cet appartement qui surplombe le Caire. Donc on entend au loin, j'espère, au loin les voitures, la circulation du Caire. Vous êtes dans votre quartier des Amalek. Ça fait longtemps que vous habitez ici?
Ah oui, il y a 20 ans. On l'a prise pour 40 000 francs, 14 000 francs. Maintenant elle coûte 4 millions.
Vous connaissez bien cette ville?
Je crois, parce qu'à part avoir vécu dans plusieurs quartiers, j'ai tourné un peu partout. Et chaque fois que je fais des repérages, je ne manque pas de voir exactement chaque maison et chaque quartier et quelle est l'influence de chaque quartier sur les gens. Et certainement ça fait une grande différence parce qu'il y a de grandes différences, hein. Il y a encore les palais des pachas et je ne sais pas quoi, mais la plupart sont devenus des ambassades, mais il y a encore d'énormes différences entre les riches et les pauvres, et ça augmente, et les démunis alors sont vraiment vraiment misérables. Ça veut dire bien en dessous de quoi vivre. Réellement de quoi vivre. Ça veut dire l'Égyptien maintenant pense, il passe son temps à penser comment il va, si il va manger à midi, pas comment il va ou quoi, qu'est-ce qu'il va manger, si il va manger à midi et si il pourra nourrir les enfants. Alors c'est vraiment la misère noire, et quand on parle, oui. Certainement que l'Égypte est un pays absolument extraordinaire. Mais nous avons les plus beaux vestiges du monde et en quantité effrayante. Partout, il y a des vestiges. Et maintenant, même Alexandrie, ils sont en train de retrouver les vestiges des Romains et des Ptolémées. Il y a des merveilles partout, réellement partout. Et si tu montes en Haute-Égypte, alors c'est la folie noire. Incroyable ce que les anciens Égyptiens ont laissé. Moi, je souhaite de tout mon cœur qu'on cesse de trouver de nouveaux tombeaux et de nouveaux. Basta, il y en a assez. Ils ne sont pas excessivement bien entretenus. Ils sont en train même de se gâter. Il y a des dessins sur les murs. Incroyable, incroyable. On dirait qu'ils ont été faits hier. Mais chaque année, ça se détériore de plus en plus, parce qu'il y a trop de touristes.
Youssef Chahine, j'ai lu dans un journal récemment que vous dénonciez le fait que l'Égypte vive encore sous état de siège et que ça dure depuis 22 ans.
C'est simplement ridicule parce que ça ne peut pas ne pas avoir un effet vraiment dévastateur, pour, surtout pour la jeunesse. On est dans une autocratie, il y a une seule personne qui prend toutes les décisions et cette personne n'est pas particulièrement, n'a pas particulièrement de grandes connaissances. Et comme tous les autocrates, ça se prétend qu'ils savent absolument tout. Et en vérité, ils savent très peu.
Mais alors comment vous faites, Youssef Chahine, parce que vous êtes très critique vis-à-vis du pouvoir en place, mais vous pouvez le dire, il y a très peu de gens qui peuvent se permettre de dire ça. Sans être emprisonné, sans avoir de très sérieux problèmes. Est-ce que vous pensez que c'est votre célébrité internationale qui vous protège un peu? Parce que, franchement, aujourd'hui, mis à part vous et l'écrivain Salah Ibrahim, qui, je parle des intellectuels qui vivent en Égypte, qui oserait justement remettre en cause le système en place, la politique de ce système? Pratiquement personne.
Bien, j'ai été souvent emmerdé, j'ai été menacé. Mais il trouvait des trucs en me disant, tu sais, tu es sur une liste qui veut dire que moi je suis en danger du côté des islamistes extrémistes ou bien et une fois même ils m'ont demandé d'accepter d'avoir deux gorilles avec moi. Et j'avais beaucoup plus peur des gorilles que des gens en dehors qui pourraient me faire du mal. Mais est-ce que je leur ai échappé? C'est un peu difficile. J'ai eu le grand prix de l'État deux fois. Une fois de Nasser et une fois dernièrement. Si quelque chose m'arrive, si je ne vais penser qu'à ça, je ne pourrai jamais travailler. Moi, je manque. Il y a un sentiment que je n'ai pas. Je n'ai pas peur. Je n'ai peur de rien. J'ai peur de Dieu si tu as envie. Mais autrement, je n'ai peur de rien. Je n'ai pas peur. Eh bien, ils vont me foutre en prison qu'ils le fassent. Et voyons si eux. Alors, vraiment, pourront faire face à la tollée qui pourrait arriver, quand même. Il y a beaucoup de gens qui m'aiment bien, même parmi eux.
Youssef Chahine en Égypte, Youssef Chahine l'Égyptien. On va parler des désillusions. Hier, on a parlé de ces années 80, de votre rencontre avec Mohsen Mahieddine, de tous les films que vous avez fait ensemble, Alexandrie Pourquoi, La mémoire égyptienne, Le sixième jour, adapté d'un roman d'André Chédid avec Dalida d'ailleurs, Adieu Bonaparte, et puis vous disiez hier, Youssef Chahine, que Mohsen Mahieddine a été récupéré par l'intégrisme.
Oui, je l'ai raconté dans le film d'après, même surtout dans Le Destin. Et j'avais fait des études, alors c'était très important à savoir comment on fait un lavage de cerveau. Il y a parfois des prières qui durent des 14 heures, où tout le monde est tellement fatigué, que n'importe quelle prêche après ça devient une chose importante. Ou bien il marche dans le désert pendant très longtemps, il fatigue, et puis il y a une prêche. Ça c'était un des systèmes et il a l'air d'avoir travaillé avec Mohsen parce que ça a été tellement le changement a été tellement brutal que j'ai rien compris pour un certain temps comme ça j'ai eu une petite lueur comme ça. J'ai dit est-ce possible qu'un garçon qui a tellement de talent qui aime tellement la musique et la danse et la chose là il dansait bien et il chantait même bien. Que d'un coup, il trouve que ça, c'est haram. Haram, c'est quoi en français?
C'est péché.
Non, c'est pas tout à fait des péchés, mais...
C'est illicite. Durant votre carrière, à 30 ans d'écart, il y a eu d'abord Omar Sharif. Omar Sharif, tout le monde le connaît, c'est vous qui l'avez découvert, c'est vous qui lui avez offert ses premiers grands rôles. Quand il décide d'aller à Hollywood, c'est pas un coup dur pour vous? C'est-à-dire, votre premier comédien que vous lancez est récupéré par Hollywood, par un monde capitaliste, par Hollywood, le système qui ne vous a jamais attiré. Et puis, 30 ans plus tard, c'est Mohsen Mahieddine qui est récupéré par les islamistes, par l'intégrisme.
Oui, maintenant j'ai Ahmedia, qui est un superbe danseur. Et comme Parpur Azad, c'est un extraordinaire acteur. Et on va le voir. Que ce ne soit pas juste un mot que je dis. C'est ça ce qui vient dans le cinéma. C'est toujours un témoin. Va voir le film, va voir l'acteur et tu vas comprendre pourquoi. Nous, ici, on a un genre de proverbe qui te dit bien, si réussi, halal, allez. Bravo. C'est après sa réussite que tu pourrais avoir un certain coup. Moi, je suis resté une vingtaine d'années à ne pas boire Omar, mais aujourd'hui, avec Mohsen, il y a 17 ans que je ne bois pas. C'est une rupture totale. Et moi, je lui permets son choix. Je n'ai pas cette maladie d'accaparation de quelqu'un. Je ne sais pas qu'est-ce que... Moi, que j'appartienne à un peuple, oui. Au contraire, c'est ça ce qui me donne un énorme plaisir quand on dit « celui-là est à nous ». Quand il me voit prendre un piracan ou n'importe quoi, ils disent « Ah, Youssef Datana, il est à nous ». Ça me donne une grande joie, d'appartenir aux autres. J'ai compris ça. Ça, c'est une des plus grandes joies que tu pourrais avoir. C'est le sentiment que tu appartiens à d'autres. Basta.
Il n'y a pas l'ombre d'une autocritique, Youssef Chahine, chez vous?
Non, on m'a souvent dit, parfois tu lances des acteurs et ils disparaissent. Ils ne deviennent pas de ce qu'on appelle, d'une façon pour moi péjorative, une star ou bien une vedette ou une étoile. Je trouve que ça, c'est ridicule. Et que j'ai toujours donné le choix à l'autre d'être ce qu'il a envie d'être. Ça, c'est normal chez moi.
Après la première guerre du Golfe, vous êtes allé à Bagdad pour être auprès des Irakiens. Et je me souviens très bien de cette anecdote, parce qu'une fois arrivé dans les rues de Bagdad, eh ben, les agents de Saddam Hussein vous cherchaient, ils voulaient que vous alliez voir le président, c'est-à-dire ils voulaient que vous alliez voir le raïs, le dictateur. Comment vous avez réussi à leur échapper? Parce que après la tentation est très très facile de vous récupérer vous aussi.
Oui, mais il y avait une dame qui était avec nous, qui supposément était militante et tout ça, elle allait mourir, elle a fait trois. Nous étions un petit groupe, mais elle a fait trois réunions avec le groupe. Comment nous venons jusqu'en Irak et nous ne voyons pas Saddam? Entre-temps, moi, je me faisais appeler par les enfants de... C'était Uday qui m'avait fait appeler. Et j'ai dit, moi, je suis à l'hôtel, il a envie de me voir, il n'a qu'à venir. Mais j'ai un programme très, très serré. J'avais fait ça, que je voulais voir les hôpitaux et je voulais voir le souk pour savoir l'argent. Parce que c'était toujours, tu changeais un dollar, on te donnait 10 milliards de dinars ou je ne sais pas quoi. C'était ridicule. Alors les gens n'avaient pas 10 milliards de dollars même pour acheter des navets. J'ai compris un tout petit peu la situation, qui est en train de payer le pot cassé de l'embargo qu'ils avaient fait autour de l'Irak. Et puis il y avait un autre qui était un ministre que j'avais connu et d'ailleurs que j'avais reçu chez moi ici à la maison, Tarek Aziz, qui m'a fait appeler aussi. Je dis, ben non, je ne peux pas, je n'ai pas le temps, je dois boire les hôpitaux parce que je n'ai que 48 heures. Et moi je dors, alors on le met encore 12 heures. Et je mange, on le met encore 6 heures, alors j'ai très peu de temps. Et puis je dois donner une... Ça c'était le grand truc, que je devais donner une conférence à l'université aux étudiants de cinéma. Il y avait probablement 3 ou 4. Alors j'ai dit non, je ne peux pas rater ça parce que je leur ai promis et moi je suis cinéaste. Et une fois que ce petit programme hôpitaux souk, petite conférence, ça avait assez bien rempli mon temps. Après ça, j'ai sauté dans la voiture et j'ai disparu. Je ne voulais pas le voir, c'est tout, point.
Mais alors, c'est très, très bizarre, parce que toute votre vie se résume à ça, c'est-à-dire que des incompréhensions. Quand vous êtes dans un pays occidental, vous défendez la cause des Arabes, vous défendez la cause des Palestiniens. Quand vous êtes dans les pays arabes, vous êtes contre les dictateurs en place, contre les gouvernements en place. C'est-à-dire que très souvent, on se demande si vous n'avez pas le cul entre deux chaises. Est-ce que vous vous souvenez un peu de la polémique créée après le film, les 11 films de 11 minutes autour du 11 septembre, où même en France, vous avez été traité de tous les noms d'anti-américains primaires et tout ça. Donc, est-ce que vous n'avez pas l'impression, vous qui avez la parole libre, vous qui avez des positions libres, de n'être compris ni par le monde occidental, ni par le monde oriental?
Non, moi je trouve que c'est le contraire. Et c'est que les deux ont découvert que j'étais une personne honnête. Certainement que le lobby israélien est très 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 fort et il ne voulait pas du tout que tu donnes une cause pour la violence qui vient du côté des Arabes. Ils ne veulent pas dire qu'il y a une occupation qui est une violence absolument incroyable, et qu'il y a une oppression, et qu'il y a un vol de terrain, et qu'il y a... ils savent très bien qu'ils veulent vider la Palestine pour l'occuper eux. Mais ça, c'est le plan de Sharon jusqu'à maintenant. Mais quand ils ont fait le fameux mur, comme par pur hasard, il y avait beaucoup de terrain qui appartenait aux Palestiniens, et ils leur ont fait ce qu'ils ont fait déjà en 1948, je crois, ou 1946, il les effraie, il les oppresse pour qu'ils partent, qu'ils se rendent n'importe où pour vider la Palestine et que Israël devienne le grand Israël ou whatever. S'ils vont même jeter les Palestiniens dehors et ils seront militants. Ils vont faire de leur mieux pour reprendre leur terre. Mais c'est normal, ce n'est pas ça la paix. Quand on fait une paix, il y a premièrement une très longue discussion et ça prend du temps et il y a un dialogue et c'est là où on peut arriver à une paix. Parce que déjà, ils ont tué un exemple quand Sadat a dit qu'il va faire la paix. Bien, qui a signé? Lui seul. Il n'a pas demandé au Parlement, il n'a pas demandé au peuple, il n'avait rien fait. Il a fait le grand geste qui le rendrait une grande star. Et il lui a donné même le Nobel, pourquoi pas. Ils l'ont rendu une grande star. Mais finalement, aucun de nous n'avait l'envie de réellement dialoguer avec les Israéliens. Parce qu'ils ont continué à faire la même chose, à pourchasser les Palestiniens. Et c'était tellement clair et net que c'était une paix comme ça. Un individu, comme si moi je vais faire la paix avec... L'épicier d'en bas, bien qu'il m'ait volé ou quelque chose. Mais c'est rien, c'était une paix ersatz.
Pour vous, c'est quoi une paix israélo-arabe? Elle ressemblerait à quoi? Elle devrait se baser sur quoi?
Moi, malheureusement, j'ai les mêmes idées que Edward Said. Moi, je vois que ce soit un seul pays réellement démocrate. Il n'y a pas d'oppression d'une race à l'autre, ou bien d'une religion à l'autre. Quand on parle de démocratie, c'est ça. Quand on dit le seul pays au Moyen-Orient qui est démocrate, c'est Israël, c'est pas Israël. Il y a la minorité qui est excessivement maltraitée. Oui, on te dit qu'ils ont même le droit d'avoir un député au Parlement. Ok, c'est du cinéma.
Édouard Saïd était dans un de vos films, l'autre, Al-Akhar. Vous le connaissiez très bien avant de lui proposer d'apparaître, parce qu'il fait juste une apparition.
Oui. J'ai lu ses bouquins. L'Orientalisme and Company, il y a beaucoup de bouquins qu'il a écrits. Il écrit merveilleusement bien l'anglais. Merveilleusement bien, je peux te dire, c'est pas Shakespeare, mais son vocabulaire est incroyable. Ça, vraiment, si tu veux comprendre, réellement comprendre son bouquin, tu dois travailler avec un dictionnaire à côté de toi. Et moi, comme tu vois, même dans ma bibliothèque ici, il y a plus de dictionnaires que de bouquins. Hein? Quelques bouquins philosophiques que je comprends tant bien que mal.
À Cannes, vous êtes allé donc plusieurs fois. Vous avez obtenu le prix du 50e festival de Cannes pour le Destin. Mais je voudrais que vous me parliez de vous à Cannes en tant que membre du jury.
J'étais très violent. Il y avait Styron, qui était le président du jury. Et le jury était composé d'une quinzaine de personnes, je ne sais pas quoi. Lui bavait sur une idiote, une petite starlette italienne. Il bavait. Et il l'a laissé parler pendant trop longtemps pour ne rien dire. Elle était bête comme ses pieds. Et puis il faisait le tour de la table et arrivait à Soliman Cissé, qui était juste à côté de moi, à ma droite. Et Styron était à ma gauche. Et dès que Soliman parlait, ils l'ont trop coupé. Je disais, mais, on a compris votre opinion. On fait le tour une fois, de nouveau, une seconde fois, et une seconde fois, l'arrêt était sur l'idiote. Et puis une troisième fois, et de nouveau, exactement la même chose, mais seulement il bavait de plus en plus. Et à la troisième fois, je m'énerve. Alors je dis, what's the matter with you fucking cowboy? Madame Lang me téléphone le soir, me dit, tu es fou, dire au président du jury fucking cowboy. Je lui dis, mais il est un fucking cowboy, c'est un sale raciste qui ne voulait jamais entendre ce que Soliman Cissé, qui est un grand cinéaste, qui est réellement un poète du cinéma. Ses images sont excessivement poétiques. Que je trouve quelqu'un de beaucoup plus important, comme ce Styron qui a été le cul à quelque chose au New Yorkais ou je ne sais pas quoi. Et puisqu'il était raciste, alors j'ai été un peu méchant. C'est tout. Et si ça ne te plaît pas, je quitte le jury.
Et finalement, vous vous souvenez cette année-là qui a obtenu le prix ?
Un film couillon japonais. Où il a inventé un mythe, il l'a inventé, c'est pas un mythe présent, ce n'est pas comme les mythes grecs. Et c'est sur ce mythe, il a brodé comment les anciens, on les mettait sur une montagne pour qu'ils crèvent parce qu'ils étaient devenus trop vieux ou je ne sais pas quoi. Moi, j'ai détesté le film.
Vous n'avez pas du tout aimé La Ballade de Narayama ?
Non, du tout. Je l'ai aimé du point de vue photo. La photo était absolument superbe. Et peut-être c'est ça ce qui a trompé beaucoup des membres du jury. Mais à cette période-là, j'ai fait un marché avec la fille de Sadoul, comment elle s'appelle. C'était une grande journaliste. Et que, parce qu'à certains moments, tous étaient d'accord que le film indien de Mrinal Sen était bien. Et puis, ils avaient distribué tous les prix. Et il n'a rien eu. Et puis, ils ont dit, ah, tu sais, pour donner un prix, il faut que ça soit unanime, à l'unanimité. J'ai dit, moi, j'aime pas le film, vous n'aurez pas l'unanimité. Faites-vous ce que vous voulez. Et puis, j'ai eu une idée en tête. J'ai dit, bien, puisque c'est un souk, et vous donnez un peu d'ici et un peu de là des prix, si vous donnez le prix à Mrinal Sen, le prix du jury, le petit prix du jury, ça va. Moi, je vous donne l'unanimité. Alors, elle me dit, qu'est-ce que c'est ça ? Vous faites un marchandage ? Je lui dis oui. Vous le faites. Il y a 6 jours que nous sommes en train de faire un marchandage de poissonnière. Hein? Ou vous me donnez le prix pour l'Indien, ou bien vous n'aurez pas l'unanimité. Ils ont dit, bien, on est d'accord. Et quand ils ont été d'accord et ils ont signé, moi j'ai dit non, quand même, moi je ne vois pas.
Alors aujourd'hui, quels sont les cinéastes que vous aimez, Youssef Chahine ?
J'oublie les noms, tu sais, il y a quelqu'un comme Doyon que j'aime beaucoup, il y a...
Et en Égypte, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous plaît ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous donne envie d'aller voir son film ou qui vous donne de l'espoir quant à l'avenir du cinéma égyptien ?
Oui. certainement. Il y a Ali Badr Khan qui est un de mes élèves. D'ailleurs, tous qui sont maintenant metteurs en scène, cotés, même si tu as envie de dire. Mais de nouveau, les gens sont un peu réticents. Ayant été éduqués un tout petit peu par moi aussi, les gens sont un peu effrayés. Peut-être qu'ils prennent les mêmes positions, ou tout au moins, ils prennent le courage d'avoir quelque chose à dire.
Mmh. Est-ce que vous êtes déjà en train d'écrire votre prochain film, qui sera le 40e?
J'écris Hamlet. Mais comme...
Encore et encore?
Oui, encore et encore et toujours. Je suis en train de le manipuler un tout petit peu, j'ose, parce que j'aime Shakespeare. C'est comme tu me dis, comment tu vas en France et tu critiques les Français? Je les aime, premièrement. Alors ça, c'est un droit de les critiquer. J'aime ma femme et souvent, elle me casse les pieds. Je ne vais pas cesser de l'aimer, je ne vais pas cesser de les critiquer. Ça, c'est ma façon à faire.
Mais vous travaillez quoi? Quand est-ce que vous vous mettez dans un bureau pour écrire?
Voilà, sur cette miteuse table, je me réveille à 4h du matin. Entre 4h et 7h, j'arrive à écrire très très bien.
Merci beaucoup Youssef Shahin, ça a été un plaisir. Toute cette semaine, dans À Voix Nue.
Merci à vous.
C'était Shahin le Métèque, cinquième et dernière partie de La Voix Nue de Youssef Shahin, diffusée la première fois le 23 juillet 2004 sur France Culture.